conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 13 décembre 1988.
Nous fêtons Saint-Jean de la Croix demain. C'est un de nos grands saints que nous devons aimer, dont nous devons progressivement, pas nécessairement au noviciat, mais petit à petit, lire les œuvres, comme celle de Sainte Thérèse. C'est évident que la lecture de Sainte Thérèse au réfectoire, c'est ça, c'est bien, et c'est pas toujours commode. Alors, je vais essayer ce soir, dans la lumière de Saint Jean de la Croix, de Sainte Thérèse, de voir comment nous devons recevoir cela dans notre grâce particulière de Saint Jean. Dans l'Église, il y a deux fêtes, il y a eu deux fêtes, des grandes spiritualités. Il faut le comprendre, ça. La spiritualité de Sainte Thérèse, la spiritualité de Saint Jean de la Croix, représente un très grand sommet. C'est un certain sommet, je crois. Je crois que Saint-Jean de la Croix, surtout, représente un grand sommet. On trouve difficilement des choses analogues chez les pères. Et en Orient, pas le seul à le dire. Je connais des moines d'Orient qui me l'ont dit. Ça représente un très grand sommet. Il y a des spiritualités ignatiennes. Ça, je crois que vous êtes moins en connaturalité, il me semble. Il faut aimer beaucoup Saint Ignace. Saint Ignace est un grand saint. Un saint soldat. C'est sûr. Avec tout son esprit espagnol et chevaleresque. Il y a une spiritualité franciscaine. Les dominicains n'aiment pas dire qu'il y a une spiritualité dominicaine. Ils disent Saint Thomas nous donne un point de vue théologique. Il y a quand même une spiritualité dominicaine avec Sainte Catherine de Sienne. Et c'est vrai que Saint Thomas est au-dessus des spiritualités. Je crois qu'on peut dire ça. C'est un théologien. Toute spiritualité se fonde sur une théologie. Toujours. Et la théologie, elle a quelque chose de beaucoup plus universel. La théologie mystique, elle a aussi quelque chose de plus universel que la spiritualité. Je crois que la théologie mystique doit assumer toutes les spiritualités. Autrement, elle ne serait pas une théologie mystique. Mais ce n'est pas la même chose, la théologie mystique et la spiritualité. Il y a la spiritualité de Saint Bruno, cartésienne. C'est sûr. Bethléem prend un aspect particulier, mais c'est nettement dans la ligne de Saint Bruno. Il y a la spiritualité bénédictine, là encore il y a beaucoup de demeures. Quand vous regardez les bénédictins de Solesmes, de Fontgombault, que vous pouvez connaître, vous avez peut-être fréquenté. Et la spiritualité des bénédictins autrichiens, c'est pas tout à fait la même chose. Et tout ça, ça vient de Saint-Benoît. Saint-Benoît n'a pas donné une spiritualité dans sa Régula. La Régula de Saint-Benoît n'est pas une spiritualité. C'est, je crois, dans l'ordre pratique, comment on construit une maison de Dieu. C'est pas parallélisme. J'ai fait une petite étude sur la théologie de la Régula de Saint-Benoît. Pour bien la faire, j'étais vivre un mois avec des bénédictins que je connaissais. Ils m'avaient demandé ça. C'était un père maître qui m'avait demandé ça. Il m'a dit, faites-moi une théologie de la règle. On peut faire une théologie de la règle. Il y a une théologie dans la règle de Saint-Benoît. Une vision de l'Église. Et le monastère, c'est la maison de Dieu. C'est la scola. L'école de sainteté. Et alors, c'est vécu avec une très grande diversité. C'est pas étonnant. Plus les choses sont objectives, plus les spiritualités sont différentes dans leur application. Ça, c'est sûr. Et pour nous, alors, c'est vrai, il faut de temps en temps se poser la question. Est-ce que nous faisons la synthèse, comme disaient certains bénédictins, oui, nous sommes liés aux cisterciens, il y a Sénanque. Nous aimons beaucoup le Carmel, c'est très lié au Carmel. Pas seulement de Cognac, mais d'autres aussi, Saint-Céré, Limoges. On aime beaucoup le Carmel, on est très lié au Carmel. Mais nos sœurs contemplatives ne sont pas des carmélites. Si elles étaient des carmélites, on aurait qu'à dire, allez, il y a des carmels qui ont des trous, on va diviser, ils seront très heureux, il y aura 5 carmels qui seront très heureux. On va faire ça. Non. On veut au contraire qu'elles soient là, proches de nous. Quand le père amer a demandé à sœur Alix, mais quand même, pourquoi encore des contemplatives? Il y a beaucoup de carmels qui aspirent à des contemplatives, à avoir des vocations. Pourquoi encore inventer des sœurs contemplatives? Les apostoliques, on comprend, parce qu'il y aura besoin. Et puis il y a une crise, alors. Mais les contemplatives, pourquoi? J'étais là à côté, comme sœur Alix, se taisait. Et elle avait raison. Contemplative se tait devant un cardinal, là, ça. Castère. Alors j'ai dit, puisque vous avez accepté les frères et la communauté Saint-Jean, mon père, vous l'avez accepté. Elle existe dans l'Église. Il faut donc qu'il y ait des contemplatives à côté. Ah, alors il n'a rien dit. Et c'est la seule raison. Bethléem a commencé par les sœurs, et les frères sont venus après. Et nous, c'est Saint-Jean, parce que Saint-Jean cache Marie. Et c'est normal que ce soit d'abord, je crois, dans l'Église, les hommes. C'est très curieux. Quand les hommes sont en premier lieu, les femmes trouvent plus facilement leur originalité. Quand les femmes sont en premier lieu, les hommes trouvent difficilement leur originalité. C'est très curieux, ça. Il y a un petit point de vue comme ça qui est assez curieux. Et c'est vrai, ça, c'est un fait. C'est, tu restes très humain et en même temps très divin, je crois. Vous allez me dire, Marie, ah oui, mais Jésus, il est Dieu. Alors là, ça ne peut rien dire. Regardez, Marie n'a pas gêné Jésus pour qu'il trouve son originalité. Parce qu'il était d'avant. Il était le Verbe de toute éternité. Et l'originalité du Christ, c'est d'être le Verbe. Une originalité unique. Il ne l'a pas cherché longtemps. Elle lui a été donnée de toute éternité par le Père. Il est le Fils bien-aimé du Père, en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Et Marie est toute relative à lui. Mais Jean était prêtre avant. Et Jésus a donné Marie quand Jean était prêtre, quand Jean était le disciple bien-aimé. Il n'a pas confié à Marie des petits séminaristes de 10 ans. Ils en seraient leur mère et vous les formerez bien. Non, c'est Jean qui était le disciple bien-aimé, qui avait suivi Jésus 3 ans, qui était déjà formé profondément. Non, nous ne sommes pas la synthèse. Il ne faut surtout pas croire ça. On aime les bénédictins, les cisterciens. On aime les dominicains. Forcément, difficile autrement. On aime les pères jésuites, les franciscains. On doit tous les aimer. Et si plus tard vous prêchez chez eux, vous aurez la grâce du prédicateur d'entrer dans le génie particulier de chaque ordre. Il faut toujours faire ça. Quand on va prêcher dans un couvent qui n'est pas de notre communauté, notre congrégation, on doit toujours entrer dans la grâce propre là où on prêche. Ça, c'est la grâce du prédicateur, c'est la grâce de l'apôtre. L'apôtre dépasse toujours ce qu'il y a de propre. Et c'est la grâce des contemplatives. Elles aiment énormément la communauté dans laquelle elles se trouvent. Mais en tant que contemplatives, elles sont d'église. Elles sont cachées en Marie. Elles peuvent être patronnes des missions. Ce qui est significatif. Parce que les carmes n'ont quand même pas tellement de missions. Mais elles patronnent des missions. Vous voyez, au fond, c'est peut-être cela qu'on doit découvrir dans Saint Jean. C'est que si tu as voulu que nous soyons sous la protection de Saint Jean, directement sous la protection de Saint Jean, c'est un peu fou. Mais c'est normal aussi. Parce que ça ne dérange personne, sauf Saint Jean. Et Saint Jean, ça ne le dérange pas. C'est ça qui est merveilleux. Oui, on serait mis sous la protection, comme les petites sœurs de Bethléem, sous la protection de Saint Dominique. Ça aurait gêné beaucoup les Dominicains. On aurait eu l'impression de leur donner une leçon. On ne veut pas leur donner une leçon. On les aime trop pour leur donner une leçon. Mais on sent que Dieu veut qu'il y ait quelque chose de particulier. On aime beaucoup Saint Jean de la Croix, mais Dieu veut qu'il y ait quelque chose de particulier. Alors, essayons de comprendre un tout petit peu. On essaie tout le temps de comprendre. Hein. Et c'est vrai, on approfondit toujours un peu cette paternité de Saint Jean. C'est quelque chose de tellement grand. Si tu veux, si je veux qu'il reste jusqu'à mon retour, et nous glisser là, dans ce regard de Jésus sur Jean, comprendre la sainteté de Saint Jean telle que Saint Thomas l'a dit. Le disciple qui avait la perspicacité de l'intelligence la plus grande, le disciple qui était d'un cœur très pur, le disciple le plus jeune. Ces trois modalités des vertus théologales que Jean a vécues d'une façon unique et que nous devons vivre d'une façon unique dans l'Église. Et je crois que c'est là où on pourrait préciser ce qui caractérise profondément ce que l'Esprit Saint veut que nous soyons dans l'Église. Perspicacité de l'intelligence. C'est pas l'intelligence, hein. C'est pas la raison. C'est la perspicacité de l'intelligence. C'est-à-dire au service d'une relation personnelle à l'égard de Jésus. Écouter Jésus. Se mettre à l'école de Jésus, comme Jean. Être la bonne terre. Que la parole du Christ en nous puisse produire tous ses fruits. Perspicacité de l'intelligence. Et là, Saint Thomas est un maître parce que il n'a jamais eu peur d'aller trop loin dans l'intelligence. On peut aller trop loin dans la raison, on peut aller trop loin dans la logique, mais jamais dans l'intelligence. Perspicacité dans l'intelligence. Une intelligence contemplative qui regarde la personne divine. Être intelligent pour une personne. C'est ça le sommet de la délivrance, transformé par la grâce. Et là, on rejoint bien le don d'intelligence. Le don d'intelligence nous fait dépasser la parole pour atteindre le mystère. Et le mystère, c'est la personne. C'est la personne du Christ. C'est la personne du Père. Dépasser la parole. Ne pas s'arrêter à la parole. Vous voyez, le grand danger d'aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'on aime l'exégèse. On aime de rester un peu sur la parole de Dieu. C'est normal. Mais on doit dépasser la parole pour atteindre le mystère. Et c'est le mystère qui éclaire la parole. Parce qu'on reçoit la parole de Dieu comme une parole vivante. Et saint Thomas nous dit, la parole vivante, c'est celle qui est liée à sa source. Donc on ne la sépare pas de sa source. Et la source, c'est l'Esprit Saint. Je ne peux pas vivre de la parole de Dieu sans être lié à l'Esprit Saint. Et de découvrir dans la parole divine l'intention de l'Esprit Saint. Aller jusque-là. Alors à ce moment-là, la parole conduit à la contemplation. On contemple l'Esprit Saint, on contemple Jésus, l'envoyé du Père, on contemple le Père. La parole de Dieu conduit à la contemplation. La perspicacité de l'intelligence, voyez, c'est vraiment la contemplation. C'est ça qui doit être pour nous la caractéristique de l'exigence de Dieu sur nous. On doit tous tendre vers cette contemplation. Une contemplation très simple. Une contemplation très proche de la parole de Dieu. Une contemplation très proche de l'humanité sainte de Jésus. Mais c'est le Verbe qu'on saisit à travers l'humanité. C'est le Verbe qu'on saisit à travers la blessure du cœur. C'est le Verbe qui nous donne l'Esprit Saint, le Paraclet. C'est le Verbe qui nous conduit au Père. Perspicacité de l'intelligence. Dites pas, hein, surtout pas, oh, moi je ne suis pas un intellectuel, donc je ne peux pas avoir cette perspicacité de l'intelligence. Ça n'a rien à voir. Nous faisons de la métaphysique parce que nous devons en faire. Nous l'aimons. Parce que pour en faire bien, il faut l'aimer. Et cette métaphysique est tout entière au service de la contemplation. Et pour être tout entière au service de la contemplation, il faut qu'elle soit totalement offerte. Alors, le Père aime mieux des brebis grasses. Hein. N'oubliez jamais ça. Parce qu'il y a de la graisse qu'ils font. Il aime l'odeur de la graisse qu'ils font. C'est dit dans l'Écriture. Hein. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il n'aime pas l'odeur de cuisine. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas celui-là. La graisse qu'ils font. Voyez, c'est peut-être très très beau comme repas intentionnel. N'est-ce pas ? Mais c'est pas ça que... La graisse qu'ils font, c'est notre intelligence donnée, offerte. Notre intelligence pour laquelle on a travaillé, qui s'est engraissée par la philo, par la théologie. Ce n'est pas les conclusions théologiques qui nous conduisent à la contemplation, non, c'est la parole de Dieu. Et on remonte toujours à la parole de Dieu. Pour entrer dans le mystère, perspicacité de l'intelligence. C'est très beau. Pureté du cœur, ça oui. Encore le don d'intelligence. Bienheureux les cœurs purs. Pureté du cœur. Et pas d'alliage. Pour la pureté du cœur, il faut aussi un cœur très aimant. Et si Dieu a permis qu'on ait des frères qu'on aime beaucoup, on doit les offrir. On doit les offrir. Il faut que notre intelligence soit très aimante pour offrir à Dieu tous nos frères que nous aimons, mais surtout ceux que nous aimons le plus. Vous voyez la pauvreté dans l'amitié humaine implique cette offrande. Dans la lumière même de cette pureté du cœur. Autrement, notre cœur ne sera pas assez pur. Et là, il y aurait une certaine opacité. Puis la jeunesse, ça, grâce divine qui fait qu'on ne vieillit pas intellectuellement, spirituellement, au point de vue du cœur. On ne vieillit pas, au contraire, on va toujours plus loin dans cet élan et cette capacité d'admiration. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des quantités de petits vieux, de jeunes vieux, ils ne savent plus admirer. Ils en ont vu tellement à la télévision qu'ils ne savent plus admirer. Ah, j'ai déjà vu. Tout est déjà vu. Plus de capacité d'admirer. La jeunesse, c'est la capacité d'admiration. On est jeune quand on sait admirer. Et l'admiration est un point de départ de la contemplation. Vous voyez, c'est vraiment... Saint Thomas, en regardant Jean, nous montre le contemplatif. Perspicacité de l'intelligence, pureté du cœur, jeunesse. Et c'est ça qui doit être pour nous. Vous voyez, je ne dis pas notre spiritualité, mais notre grâce. Cette soif de contemplation, cette soif de pureté du cœur, cette soif de jeunesse. Et d'aller le plus loin possible dans ce don total de tout nous-mêmes. Voyez là combien saint Thomas, qui a découvert ça dans saint Jean, pour le découvrir comme il le fait, parce qu'il sait très bien que ce qu'il donne comme raison, c'est lui qu'il donne. Ça montre combien saint Thomas est proche de Jean. Ce que je crois très profondément, ce sont des saints qui sont très proches. La différence, c'est que, évidemment, saint Jean est l'apôtre, saint Thomas est le serviteur de l'apôtre, il est théologien. Mais il est tellement serviteur de l'apôtre qu'il est un saint. Alors il devient le frère de l'apôtre, il devient l'ami. Profonde amitié entre Thomas et Jean. Ils doivent toujours être ensemble dans le ciel. Toujours. Ils ont choisi un bon petit coin. Ils sont toujours ensemble. Ils s'entendent très bien. Perspicacité, l'intelligence. Voyez bien. Pureté du cœur. La jeunesse. C'est extraordinaire de voir ça. On peut être l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. C'est ça qui est très beau. Et vous voyez que la Providence a voulu que nous ayons les deux. Saint Thomas est le serviteur. Il nous conduit à Saint Jean. Je ne dis pas notre père Saint Thomas. De temps en temps, j'ai envie un peu de le dire, mais ça ne fait rien. Je crois qu'en disant notre père Saint Jean, Thomas d'Aquin est là à côté. Et puis, ils s'entendent. C'est par là, je crois, que nous allons comprendre la grandeur de Sainte Thérèse et la grandeur de Saint Jean de la Croix, mais en même temps, la différence pour nous. Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse sont nés à une période terrible dans l'Église. La grande Sainte Thérèse n'hésite pas de le dire. Grande crise. Et devant les grandes crises, il faut prendre les grands remèdes, l'oraison. On pourrait dire, l'Église actuellement connaît une grande crise, grand remède, l'oraison. Très bien. Mais Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix, c'est un moment d'un tournant. C'est les méthodes, les méditations, un peu un certain repliement. C'est le point de vue psychologique qui commence à entrer assez profondément, ça on ne peut pas nier. Et le mérite d'une Thérèse d'Avila, c'est d'avoir reconnu la grandeur de la théologie et la grandeur de la théologie de saint Thomas. Elle aime les dominicains à cause de ça. Pas à cause de leur sainteté. Ils sont des docteurs. Et J'aime les jésuites parce que les jésuites aussi, de cette époque-là, sont thomistes. Elle les aime à cause de ça. Elle aime de trouver des théologiens. Ça, c'est beau. Elle sait que les théologiens vont pouvoir tout le temps, l'amener vers le mystère. Parce qu'elle sait que par elle-même, elle a une pente naturelle et de l'époque à glisser un tout petit peu dans une certaine introspection. Elle le fait par obéissance, vous voyez, ce qui signe aussi un peu de l'époque. Et on voit très bien qu'elle raconte, tout en voulant ne pas se raconter, elle raconte quand même. Je ne vois pas saint Thomas écrivant les degrés d'oraison. Je vous avoue que je ne vois pas saint Thomas écrivant les degrés d'oraison. Saint Jean de la Croix se raconte moins. Il a une étude moins réflexive. Il tend vers une théologie. Il a été formé du reste par la théologie thomiste à Salamanque. Il était considéré comme un très bon élève. Il était un peu responsable là, pour tous ceux qui étaient père Carme ou frère Carme. Et il nous a donné une description des purifications. C'est déjà beaucoup plus normal. Décrire les purifications, c'est tout un point de vue psychologique. C'est vrai. Les purifications, c'est notre point de vue psychologique. Vous êtes tous des êtres qui êtes en train de se purifier actuellement. Un noviciat. Tous les jours, et on continue. Et tout à point de vue psychologique, c'est bien évident. Vous découvrez des tas de choses que vous n'aviez jamais découvert avant. C'est forcé. Conscience de soi qui se fait, surtout quand on commence à aimer, alors on découvre des quantités de choses. Et on arrive petit à petit à unifier sa vie. Au début, ça part, puisqu'il y a 3 degrés de vie. Alors on découvre que ces 3 degrés de vie, j'y avais jamais pensé avant. Et comme au noviciat, il y a un sevrage, on pense plus qu'avant. Avant on était pris par l'activité. Il y avait des tas de choses qui nous mettaient dans une espèce d'euphorie psychologique. Tandis que sinon, sevrage, il y a un sevrage assez fort. Assez fort. Pas de journaux. Si ce n'est certains qui passent, il faut avoir pas de blanche, hein. Pas de télévision, pas de TSF, rien de tout ça. Sevrage. Un peu de musique. Un grand sevrage. Tout ça dans l'obéissance. Parce que ce sevrage doit se faire dans l'obéissance. Donc, au niveau des purifications, tout le point de vue psychologique est présent. Il ne faut pas oublier. Hein. Ça, c'est bien évident. Et pour nous, la psychologie doit nous aider à comprendre un peu ces purifications. Mais vous voyez, c'est une psychologie très particulière. Ce n'est pas la psychologie freudienne. Ce n'est pas la psychologie des psychanalystes. Non. Ils ne comprendraient pas grand-chose à vos purifications. Pas grand-chose. Tu reçois des bagatelles. Purification. Mais non, vivez. C'est pas étonnant que vous êtes comme ça, parce que vous êtes dans un milieu fermé, là. Les moindres détails prennent une importance pour vous. Oui, mais dans les purifications, dans la lumière de Dieu, les moindres détails prennent une importance. C'est évident. Parce qu'on veut avoir un cœur pur, net. On veut cette limpidité de l'intelligence. On veut cet élan du cœur. Et garder cette jeunesse, cette capacité d'admiration. On veut tout ça. Cette purification se fait dans la lumière des dons du Saint-Esprit, du don de science, du don de piété. Et ça fait pleurer le don de science. Donc c'est pas étonnant si de temps en temps, le soir, vous voyez que vous pleurez. C'est le pentos, comme on dit à Bethléem, qui commence. Vous pleurez sur vous-même, tous vos péchés, toutes les... Bon. Alors si ça arrive un peu trop souvent, dites-le au Père Maître. Père, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Dans le temps de carême, vous voyez, je vous avertis. Dans le carême, je ne sais pas ce qui se passe, mais... À partir de 6h, tous les soirs, je commence à pleurer. Il ne faut pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça, c'est un fait. Avant, très peu, ou bien après le repas du soir, parce que si d'avant c'est gênant, parce que les gens nous regardent, dès que là, après le repas du soir, pendant la conférence, on peut se cacher, et puis on peut, après on entre vite, vite chez soi, personne ne voit. Saint Jean de la Croix montre avant tout ce point de vue des purifications montées du Carmel. Et puis, le cantique spirituel, alors, c'est quelque chose qui est lyrique, cantique des cantiques, pensé par Saint Jean de la Croix. L'âme unie à Jésus époux. Et tout ce mystère. Saint Jean de la Croix demeure encore dans la description. C'est descriptif, c'est pas une théologie mystique. C'est très grand, c'est très beau. Ça nous aide à pouvoir faire une théologie mystique. Alors, je reviens toujours à la question, est-ce que les demeures de leur... Psychologiquement, on peut retrouver des éléments qu'on a vécus. Est-ce que ces demeures de la raison, c'est une théologie mystique? Je dirais non. C'est descriptif. Ça dépend énormément de l'époque de Sainte Thérèse. Le Père Dour venait toujours là-dessus. Pourtant, il aimait beaucoup Saint Jean de la Croix. Un très grand amour, Saint Jean de la Croix. Il avait beaucoup prêché aux Carmélites. Il venait toujours sur ce fait qui m'avait beaucoup frappé, moi. En me disant... Pour nous, non seulement il y a la petite Thérèse, parce que la petite Thérèse ne donne pas les différents degrés d'oraison. Pourtant, elle est la fille de Sainte Thérèse et de Saint Jean de la Croix. Elle comprend qu'il faut plus cette petite voix. Ne pas s'arrêter à nos sentiments psychologiques. Ne pas s'arrêter... Vous tâtez le pouls en disant premier degré d'oraison ce soir. Demain, ça doit être le deuxième. Après-demain, le troisième. Il faut avancer vite, quoi, parce qu'on est à la fin des temps. Donc, avant que le Christ arrive, il faut qu'on touche terre. Alors, on est beaucoup préoccupé de savoir quelle demeure on est que d'aimer. La petite Thérèse a très bien senti ça. Peut-être parce que ses voisines pouvaient parler de ses degrés d'oraison. Et elle a pris la petite voix. Et le Père de Haut soulignait que le mystère de Marie, depuis Saint Louis Marie Grignion de Montfort, nous est tellement donné. Marie est tellement présente à notre vie d'oraison. Que Marie permet que tout prenne une note d'une extrême simplicité avec elle. Mais d'une extrême simplicité, non pas par des simplifications, mais un vrai mystère de simplicité, c'est-à-dire un vrai mystère d'amour, qui fait qu'on tend uniquement vers l'unique nécessaire. Et cet unique nécessaire, Saint Thomas dirait, ce sont les noces de notre âme avec Jésus. Les noces de notre âme. C'est ça l'unique nécessaire. C'est cette alliance toute particulière qui ne peut être vécue qu'en mari, de Jésus époux et de notre âme épouse Jésus avec Marie et en elle. Et je crois qu'en effet, alors, à ce moment-là, on touche quelque chose de beaucoup plus théologal, objectif. On ne s'occupe plus de ces éléments subjectifs. On les laisse tomber. Nous vivons un moment où nous sentons combien le psychologisme a pu faire du tort. Et c'est curieux. Le point de départ du psychologisme est le terme. Le point de départ, Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix, c'est sûr, c'est le point de départ. Et nous, nous sommes au terme. Et nous sentons que nous avons quitté ce point de vue-là pour entrer dans quelque chose. Nous devons le quitter, comprenez bien, on ne le méprise pas. On sait qu'il existe encore avec le vieil homme qui est en nous. Qu'il existe encore avec tout le problème de la conversion qui est en nous. Mais on sait qu'il y a quelque chose de plus important, de plus fort, de plus divin. C'est cette alliance de notre cœur transformé par les vertus théologales avec le cœur de Jésus. On sait que c'est dans ce mystère des vertus théologales que se fait cette unité. Cet échange des cœurs, ce mystère de noces, ce mystère de noces entre notre âme et l'âme de Jésus. Cana, exprimant ça, et la demande de Marie étant là pour que tout de suite on reçoive cette surabondance. Tout de suite on reçoive cette surabondance. Et pour saint Thomas, l'exercice divin de la charité nous unit tout de suite à Jésus, de cette manière toute divine. Il nous fait comprendre l'exigence de Jésus sur nous, sur notre âme. Une exigence jalouse de l'époux. Jésus veut que nous soyons tout à lui. C'est capital. Et étant tout à lui, on peut alors aller auprès de ceux qu'il a mis proche de nous, auprès des plus pauvres, des plus abandonnés, des plus délaissés, dans l'ordre spirituel comme dans l'ordre matériel. Peut-être que nous devons, nous, être très attentifs à cette pauvreté dans l'ordre spirituel. Parce que c'est ceux qu'on voit le moins. Mais les pauvres, on pense tout de suite aux pauvres matériellement, aux pauvres physiquement, aux pauvres intellectuellement. Il y a une pauvreté spirituelle et divine qui est terrible. Ce sont des riches intellectuellement, des riches par rapport aux examens passés, qui sont passés. Donc ils sont des galants. Ils sont terriblement pauvres, divinement. Et on doit pouvoir les aider, les soutenir. Je crois, vous voyez, que saint Thomas et la Vierge Marie, à Cana, puisque c'est le mystère de l'oraison pour saint Thomas, nous font comprendre cette très grande exigence d'être attiré par le mystère, par la personne du Christ, par la blessure de son cœur, et d'être tellement attiré par lui que tout le reste tombe. On ne s'en occupe plus. On n'a qu'un seul souci, c'est d'aimer et d'exercer divinement nos vertus théologales. De foi, d'espérance et d'amour. Et on comprend que c'est cela qui est le plus urgent, le plus nécessaire. Parce qu'autour de nous, nous voyons des chrétiens qui perdent la foi, des chrétiens qui perdent l'espérance, qui perdent la charité. Alors, on veut les porter, les aider. On ne peut jamais faire oraison tout seul. On porte tous ceux qui sont liés, on les porte dans l'oraison. C'est tellement important de comprendre cet absolu de l'intimité avec Jésus, cet absolu de l'oraison, qui est un avec la contemplation. Et ça ne peut pas se remplacer. Et toute notre vie religieuse est au service de cela. C'est pour cela. Je crois que c'est ça notre, j'allais dire, l'aspect premier que veut l'Esprit Saint pour nous. Perspicacité de l'intelligence. Pour Dieu et pour le prochain. D'abord pour Jésus, d'abord pour le Père, en premier lieu. Et n'oublions jamais que l'exercice de notre amour à l'égard de Dieu et l'exercice de l'amour à l'égard du prochain n'est pas le même. Dire que c'est le même, je crois que c'est une méconnaissance complète de ce que représente la théologie de Saint Jean. Il faut toujours comprendre ça. Vous voyez, si la raison formelle pour parler théologie de l'amour à l'égard du Christ et l'amour à l'égard du prochain, c'est la même raison formelle. C'est Jésus. C'est la bonté divine dans le cœur de Jésus et dans le cœur de nos frères. Si c'est la même raison formelle, l'exercice n'est pas le même. Parce qu'à l'égard de Dieu, notre amour implique toujours l'adoration. À l'égard du prochain, notre amour implique toujours la miséricorde. Alors vous avez les deux pôles. Adoration, miséricorde. C'est pas la même chose hein, d'adorer et d'être miséricordieux. Ça se tient, ça ne s'oppose pas du tout. Ça se tient, ça s'appelle. Plus vous êtes miséricordieux, plus vous comprenez qu'il faut adorer. C'est la vraie miséricorde. Et plus vous adorez dans la solitude, dans le silence, plus vous comprenez qu'il faut aller auprès de ceux qui n'en peuvent plus, de ceux qui ont besoin de nous. Vous voyez, il y a une très grande objectivité divine qui vient des dons du Saint-Esprit, dans la manière dont saint Thomas conçoit l'oraison et la contemplation. Perspicacité de l'intelligence, pureté du cœur, capacité de jeunesse, d'élan, d'admiration. C'est très beau ça. Et ça montre exactement ce que doit être cette contemplation. Divine, mystique, sous l'action d'Esprit Saint. Mais je ne me demande pas, vous voyez, où j'en suis. Non. S'il y a des petits phénomènes très particuliers, et vos indices, tiens, aujourd'hui, durant ton oraison, il y a eu un phénomène de l'évasion. Vous ne vous en occupez pas. Vous avez dit, tiens, mis une feuille de papier en dessous de mes genoux, pour bien montrer que vous ironisez ce point de vue-là. Ne s'en occupe pas. Reste. Ça arrive très peu aux théologiens, parce qu'ils pèsent lourd. Ça arrive très peu, t'es là. Vous voyez, c'est très curieux, ça. Parce que justement, Dieu leur demande l'offrande de l'intelligence. C'est ça qu'ils doivent faire. Et Dieu leur demande d'être comme des tout petits enfants. Ils seraient trop heureux, vous voyez, intelligents, d'analyser son phénomène de l'évasion. Et à ce moment-là, ils perdraient tout le contact avec Jésus. Parce qu'il arriverait à mettre... Il arriverait à l'oraison avec une bascule, tu vois, une balance. Il dirait à son voisin, hein, quand tu verras, hein, tu mettras en dessous pour voir ce qui se passe. Non, on n'analyse pas. L'oraison, on n'analyse pas. On est au-dessus. On doit faire des actes d'adoration, oui. On n'en ferait jamais trop pour tous ceux qui ne les font pas. Tous les matins, des actes d'adoration, sous la mouvance de la charité. Des actes de foi. Faites des actes de foi, d'espérance et d'amour. Et puis quand le Saint-Esprit vous prend, à ce moment-là, on laisse l'Esprit Saint. On est seul avec Jésus. On l'aime. Ce sont des noces d'amour. Marie est là. Oui, Marie fait que tout devient très rapide. La hâte de Marie, c'est pas pour rien. Et la hâte de Marie, hein, c'est la petite Vierge Marie portant Jésus. Et la hâte de Marie, c'est pour la cousine Élisabeth. Et la cousine Élisabeth ne faisait pas raison. Elle priait, ça j'en suis sûr. Elle priait, elle était très, très pieuse. Je ne crois pas qu'elle faisait raison. On peut faire raison qu'avec Marie. Ah, quand Marie était là, alors, peut-être. Parce que Marie, sûrement, elle, était parfaitement dans ce silence intérieur. Tout de suite, avant même l'Annonciation. Parce qu'elle s'était totalement consacrée à Dieu. Une âme qui se consacre totalement à Dieu ne peut vivre que dans l'oraison. Elle a de la peine, mais elle sait que c'est son climat, puisqu'elle s'est totalement consacrée à Dieu. Et alors, tout l'oriente vers cela. Et Marie était totalement consacrée à Dieu. Marie vivait de cette intimité, de cette unité profonde. Elle ne voulait que cela. Elle nous l'a communiqué. Elle nous donne. Et elle veut que par elle, nous entrions le plus vite possible dans l'oraison. Voyez, entrer dans l'oraison, ce n'est pas regarder les fruits de l'oraison. Entrer dans l'oraison, c'est avoir soif de l'oraison. C'est comme ça qu'on entre dans la contemplation. Celui qui ne s'attarde qu'aux fruits perd la soif de l'oraison. On ne regarde pas les fruits. On doit être très très pauvre. Mais on augmente et on intensifie cette soif. Et on considère que c'est ça qui donne le sens à notre vie. Et que c'est cette soif de l'oraison qui est la grâce que Dieu nous donne, la grâce principale. Et c'est dans la mesure où on a cette soif de l'oraison qu'on pourra être pour tous ceux que Dieu met proche de nous, dans notre vie apostolique, dans notre vie de charité fraternelle, des sources vivantes d'amour.